Je lirai dans les Corinthiens le texte qui sera le texte de référence pour la prédication que nous donnera tout à l'heure Jacques. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, je donne la parole à Jacques, et je prierai encore pour Jacques. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te disons merci aussi pour la présence de Jacques que tu as appelé à ton service, qui maintenant va nous parler en ton nom. Seigneur, donne-nous d'être sensibles à ta voix et remplis Jacques de ta puissance, comme ta parole nous l'annonce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci beaucoup.
Voilà le point commun avec tout ce que nous venons d'entendre, et en particulier avec l'introduction, c'est que vous avez devant vous un pasteur vintage. Et je vais vous raconter une expérience que j'ai faite pas plus tard qu'hier et qui m'a ouvert largement les yeux à ce sujet. Pour la première fois, pour la première fois, alors que je prenais le tram, une jeune fille m'a donné sa place. Oui. J'en étais pas très fier. J'ai dit non, mais ça allait rester assise. Donc la conclusion a été tragique. Mais voilà, faut faire avec. Voilà, j'avais à cœur de lire ce passage parce que à plus d'une reprise, je me suis senti personnellement en phase avec cette constatation de l'apôtre Paul qui est assez étonnante dans sa bouche, parce que pour qui connaît, qui fréquente un peu les écrits de l'apôtre Paul, on a du mal à imaginer qu'il puisse se sentir, comme il le dit ici, faible dans la crainte et dans un grand tremblement face à un public, les Corinthiens, qu'il connaît un peu, et il avoue sa faiblesse et sa crainte, et même ses grands tremblements à leur adresser la parole, à leur annoncer l'Évangile. Et ça me rejoint, et je pense que ça peut nous rejoindre. Qui d'entre nous n'a jamais vécu ces moments-là où en disant « mais il faudrait que je parle du Seigneur, il faudrait que je témoigne, mais j'ose pas, j'ai peur, j'ai la trouille ». Et je crois qu'on ne mesure pas assez que l'apôtre Paul lui-même aussi connaissait ce genre de phénomène. On fait de l'apôtre Paul un apôtre qui est insensible à tout, on peut lui lancer des pierres, il résiste, il se relève, il repart. Oui, il a fait ça, mais il avait peur. Et c'était pas facile pour lui. Il se rend à Corinthe, nous tirons la lecture qui vient d'être faite par Bernard, la première épître aux Corinthiens, et il dit ceci: « Lorsque je suis allé chez vous pour la première fois, j'étais dans un état de crainte, de faiblesse et de grand tremblement. » Et qu'est-ce s'est-il passé à Corinthe pour qu'il en soit ainsi? Nous savons que cette église de Corinthe était très chère au cœur de l'apôtre Paul, précisément parce qu'elle lui avait coûté cher, cette église. Ce n'était pas facile ce qu'il a vécu. Et aussi bien le livre des Actes qui nous en parle, que les deux épîtres aux Corinthiens nous montrent que les relations étaient faites de tensions, d'amour et de haine entre cette église de Corinthe, qui fait que pour l'apôtre Paul, il y avait une relation très particulière là-bas. Il avait vécu des choses très, très spéciales à cet endroit-là. Et il avait appris alors qu'il était, avant d'arriver dans cette, avant d'écrire à cette église de Corinthe, il avait appris, lisons au premier chapitre, par des gens d'une fin de la famille ou de l'entreprise, les gens de chez Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Et ça va entraîner l'apôtre Paul à écrire cette première épître, et en particulier les trois premiers chapitres, quatre premiers chapitres de son épître, pour souligner, pour montrer, pour mettre en évidence ces discordes qu'il y a parmi les Corinthiens. Mais plus que ça encore, c'est de creuser en dessous des discordes. Il ne va pas s'intéresser à la surface des choses, pourquoi les gens se disputent, mais profondément pourquoi on en est arrivé là. Et c'est pourquoi il rappelle que quand il est arrivé pour la première fois à Corinthe, il était tout craintif, dans un état de grand tremblement devant ces gens-là. Moi-même, je suis venu chez vous, frère, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi cet état? Eh bien, je vois au moins deux raisons à cela, à sa crainte et à ses tremblements. La première des raisons, c'est qu'il faut connaître un petit peu ce qu'il vient de subir. Lorsqu'il est arrivé à Corinthe pour la première fois, c'était lors de ce qu'on appelle son deuxième voyage missionnaire. Il était parti d'Antioche, de Syrie, et il avait traversé ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie pour arriver par en haut, au nord de la Grèce, et à Philippe, pour descendre ensuite direction Athènes, Corinthe. Et pendant ce long cheminement de l'apôtre Paul, long, parce qu'il allait pas en voiture, dans les semaines qui ont précédé, où il a passé par toutes ces étapes-là, il a connu toutes sortes d'aventures, de mésaventures, de difficultés. Philippe, souvenez-vous, il a annoncé l'évangile, il a délivré une femme qui était sous l'emprise d'un démon, mais ça l'a amené en prison. Alors on se dit, quand on lit ce qui est arrivé à Philippe, que dans la prison, il chantait des cantiques, il louait le Seigneur. Oui, mais il était quand même en prison. Ça s'est assez mal passé. Un tremblement de terre, bon, il a été libéré, tant mieux. Le geôlier lui-même s'est converti à Jésus-Christ, formidable. Mais ça s'est pas passé dans la douceur et dans la facilité. Ça a été dans l'opposition, ça a été sous la menace qu'il a vécu cela. Il a dû quitter Philippe, il est descendu et il est traversé différentes villes où chaque fois le même scénario s'est passé. Il allait, selon sa volonté, selon sa coutume, il allait d'abord s'adresser à la synagogue, à ses frères juifs, pour leur annoncer que Jésus-Christ était le Messie qu'ils attendaient. Et la plupart du temps, ça se passait bien le premier jour, moins bien le deuxième jour, et le troisième jour, ça se passait très mal. Et on le rejetait. Quelquefois, à coups de pierre, il a été lapidé plusieurs fois, nous dit l'apôtre Paul, et il a juste eu le temps de s'échapper. Et puis, arrivé un peu au sud de la Grèce, à Athènes, là, même scénario, il s'adresse aux gens qu'il rencontre. Et à Athènes, on est à Athènes justement, la ville des intellectuels, des philosophes, des gens qui, nous dit le livre des Actes des Apôtres, passaient leur temps à se raconter des dernières nouvelles. Et ils se les racontaient d'une certaine manière, il y avait tout un protocole pour parler. Il fallait bien parler à Athènes. Il fallait avoir un langage prestigieux, raffiné. Et l'apôtre Paul a eu l'honneur d'être convoqué par la crème de la crème de la société athénienne, puisqu'on l'a appelé à parler devant l'Aréopage, c'est-à-dire les intellectuels d'Athènes, qui lui ont fait cet honneur. Viens nous parler, viens nous dire ce que tu annonces, là, ça nous semble intéressant, ça c'est nouveau, et nous on aime ce qui est nouveau. Et ça s'est très mal passé aussi. Il s'est fait descendre en flammes par les intellectuels. Puis on trouvait à la fin de son discours, écoute, bon, c'est bien, on t'écoutera une autre fois, mon cher. Et on peut comprendre que, c'est bien, il y a eu quand même quelqu'un qui s'est converti lors de cette rencontre devant l'Aréopage. Mais il n'en reste pas moins que l'apôtre Paul a été méprisé, rejeté. Alors, voilà la première raison. Il vient de vivre des choses difficiles. L'annonce de l'Évangile s'est révélée fructueuse. Il y a eu des convertis, c'est vrai, mais il y a surtout eu beaucoup d'opposition de la part des Juifs qui étaient scandalisés de ce qu'il disait et de la part des Grecs qui trouvaient ça méprisable. Son discours n'était pas assez raffiné. Et ça, c'est pour ce qu'il venait de vivre, mais le voilà qui arrive à Corinthe. Et à Corinthe, il se rend compte qu'il a à peu près le même public devant lui. Il y a des Juifs, il y a des Grecs. Et il sait, il le dit un peu plus loin, il dit, les Juifs réclament des miracles, les Grecs demandent de la sagesse, et moi je leur parle de Jésus-Christ crucifié. Un petit peu comme si quelqu'un disait, les uns veulent des pommes, les autres veulent des poires, et moi je leur vends du raisin. On va y arriver. Alors on comprend pourquoi l'apôtre Paul était dans un état de grand tremblement, parce qu'il disait, mais le message que j'annonce, fondamentalement, personne ne le veut. C'était vrai du temps de l'apôtre Paul, et c'est une réalité qui continue, qui perdure. Vous l'avez peut-être observé, tout le monde n'applaudit pas des deux mains quand vous témoignez, vous parlez de Jésus. Vous avez les différentes réactions qui vont de l'opposition radicale, du rejet, des fois un peu violent, à une condescendance du oui, d'accord, cause toujours, c'est bien. Quand tu auras fini, on continuera. Hein? Et voilà. Et l'apôtre Paul vivait ces choses-là. Et ce n'était pas facile pour lui, comme ça n'est pas facile pour nous, pour vous et pour moi. Qui d'entre nous n'a jamais été vraiment découragé en disant, mais à quoi bon? À quoi bon? Enfin, moi ça a été souvent mon cas. Je suis assez sensible aux remarques, et quand on me rentre dedans, j'essaye de ne pas le montrer en apparence, mais intérieurement, je suis blessé. Et je me dis, mais comment faire? Comment faire mieux? Comment faire autrement? Alors maintenant, il faut aller un tout petit peu plus loin et réfléchir à cette raison. Pourquoi est-ce que les gens réagissent ainsi? Pourquoi est-ce que les Juifs demandent des signes? Et pourquoi est-ce que les Grecs veulent de la sagesse? Il y a une raison à cela. Ces deux catégories de personnes, ces deux groupes de personnes, viennent de deux mondes totalement différents. Les Juifs ont une autre histoire que le monde grec. Ils ont reçu une autre éducation. Ils ont vécu dans un autre monde, mental, spirituel. Quand les Juifs, on les connaît mieux parce que nous fréquentons un peu les mêmes personnages. Nous lisons le même Ancien Testament, la même Torah. Que les Juifs, et on connaît ces personnages, on les aime aussi comme chrétiens. Dans leur histoire, parmi les héros qui ont bercé l'enfance de tout Juif qui a fréquenté la synagogue, il a entendu parler d'Abraham. Abraham, cet homme qui a vu Dieu intervenir miraculeusement à différentes reprises de son existence quand il a été appelé. Notamment par Dieu, lorsque, par exemple, ça a dû être quelque chose d'absolument bouleversant pour cet homme, pour Abraham, lorsque Dieu lui annonce, alors qu'il est âgé de 100 ans et que Sarah est âgée de 90 ans, il lui annonce que Sarah va être enceinte. Et qu'effectivement, elle devient enceinte et qu'elle donne naissance à leur enfant, l'enfant de la promesse. Ça a été pour Abraham le signe, le signe du fait que Dieu intervenait, non seulement dans sa vie, mais qu'il allait intervenir dans la suite des temps. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham, il lui avait dit « je te bénirai et en toi, dans ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies à leur tour ». Et les années passaient, puis Abraham ne voyait rien arriver, rien venir. Il disait, mais la promesse du Seigneur, je crois que c'était une illusion que je me suis faite, c'est dû me faire un film. Enfin, il n'a pas dû dire ça comme ça, parce que c'est difficile. Mais oui, c'est trop vintage. Mais il a dû se dire, ben, je me suis fait des idées, des illusions, c'était pas ça, quoi. Et voilà. Et puis tout d'un coup, voilà que Sarah avec un gros ventre. Le signe que Dieu allait intervenir. Et puis, un juif, il connaissait aussi l'histoire, bien sûr, de Moïse. Moïse, cet homme, le fondateur du peuple d'Israël. Cet homme aussi a vu opérer des signes extraordinaires. Alors, avec Moïse, on pourrait écrire un livre sur tous les signes qui se sont passés dans sa carrière, où Dieu est intervenu par des signes miraculeux. Il a vu, j'en cite un pour ne pas prolonger, mais il a vu la mer s'ouvrir devant lui et ainsi pouvoir traverser la mer avec tout son peuple et échapper aux armées de Pharaon qui les poursuivait. Élie le prophète, hein, on continue un petit peu l'histoire. Élie le prophète a vu s'opérer par la puissance de Dieu des signes miraculeux. Il a vu des guérisons, un lépreux guéri. Il a vu un enfant mort ressuscité. Il a vu l'intervention de Dieu dans son ministère. Il a vu des signes miraculeux lui aussi. Et puis dans les évangiles, pour sauter des grandes étapes, nous voyons que Jésus lui-même a été sommé par les pharisiens et les scribes, de produire un signe pour accréditer son autorité. Il dit dans l'évangile de Marc, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Bref, les juifs demandent à voir des signes. Ils veulent voir des miracles qui manifestent visiblement la puissance de Dieu. Ils veulent voir Dieu agir dans le monde. C'est pas mauvais, finalement. Mais les Grecs, pas du tout. En tout cas, les intellectuels grecs, c'est pas ça qui les impressionne. Des signes, des miracles, ouf. Pour eux, ça se rapproche plus de la manipulation, de la superstition. Eux, ce qui les touche, les intellectuels grecs, c'est un raisonnement bien construit. Une démonstration oratoire convaincante. Ça les touche. Ça les convainc. Vous savez qu'il existait à Corinthe, et dans les autres grandes villes de la Grèce, mais à Corinthe en particulier, il existait des écoles de rhétorique, où on apprenait justement l'art de faire des discours, l'art de bien parler de façon convaincante, de façon efficace, de façon à emporter l'adhésion du public. Et ces écoles étaient nombreuses, et les orateurs, des gens aguerris, attention, il fallait savoir s'y prendre pour parler. Et ça, c'était quelque chose qui touchait, qui convainquait, qui pouvait convaincre un auditeur grec, de culture grecque, ça c'était quelque chose. Mais les miracles, comme les juifs, c'était pas vraiment ça qui les touchait. Ils regardaient ça même avec un peu de mépris. Pour nous, gens d'esprit, gens cultivés, on a besoin de choses plus grandes que ça. Et puis, ils avaient aussi certaines bonnes références. Les juifs pouvaient faire allusion à Abraham, à Élie, à David et à tous les héros de l'Ancien Testament, mais les Grecs, ils ont une panoplie de grands philosophes. Chapeau pour eux. Je pense à la triade Socrate, son disciple Platon et le disciple de Platon, Aristote. Trois des plus grands noms, des hommes les plus éminents intellectuellement que l'humanité est produite. Socrate, Platon, Aristote. Et ce n'est que trois, c'est les trois grands sommets parmi une Himalaya de penseurs, d'intellectuels et de philosophes que la Grèce a produit. Alors, on comprend qu'ils aient eu une certaine fierté d'être grecs et de leur culture grecque. C'est normal, c'est évident, et on peut l'accepter. Un grec ne jurait, en fait, que par son amour de la sagesse, littéralement philosophia, philosophie. Alors, ces caractères, ces deux caractères, je crois qu'ils ont une dimension universelle. Ça serait intéressant de faire un petit test au milieu de nous pour se demander, mais moi, je suis quoi comme type? Je suis type juif ou type grec? On pourrait appeler ceux qui sont du type juif les pragmatiques. Les pragmatiques, c'est ceux qui disent, bon, moi, vous savez, les grands discours, ça me passe un peu là-dessus, ce que je veux voir, c'est des actes. C'est du concret. Comme les juifs qui voulaient voir des signes, des miracles. Mais vous savez, les blablabla, blablabla, que les Grecs leur distillaient à longueur de journée, ils en avaient un peu jusque-là. Nous, on veut du concret. Et je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui sont de type juif dans ce domaine-là. Moi, les discours, pas trop, mais du concret, des choses évidente, ça oui, je veux. Et s'il pouvait y avoir des signes et des miracles, là, ok. Mais je suis sûr aussi que parmi nous, il y en a qui sont du genre plus raisonnable. Et qui disent, moi, des signes, oui, bon, d'accord, la Bible en parle, je suis obligé d'accepter ça, mais est-ce que c'est logique? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est solide intellectuellement? Alors, je vous propose un petit instant de réflexion, puis de vous demander dans quelle catégorie vous vous mettez. Et puis de réfléchir peut-être aussi pourquoi. Est-ce que ça tient à votre cheminement personnel, votre éducation, vos lectures, vos expériences de vie qui ont fait de vous ce que vous êtes? Et j'aimerais simplement vous dire, mais c'est respectable, ne changez pas, il n'y a pas besoin. L'Évangile est aussi bien pour les pragmatiques que pour les intellectuels. Pourquoi faudrait-il changer? Alors, face à ces attentes qui sont là devant l'apôtre Paul et qui le mettent dans un état de tremblement, parce que souvent, ces tendances dont je viens de parler se sont cristallisées en partie, c'est ce qui était arrivé dans l'église de Corinthe. Ce n'était pas simplement des tendances, c'était devenu des parties à l'intérieur de l'Église. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Ces parties ne pouvaient plus dialoguer, ne pouvaient plus discuter, ne pouvaient plus se voir et s'entendre, et se sentir, et se battaient entre eux. Et on comprend que l'apôtre Paul avait peur, parce que lui-même en avait fait l'expérience physique. Il dit, maintenant, quand on les laisse aller jusqu'au bout, ils sont prêts à me lapider. Et l'apôtre Paul avait connu ça. Et voici ce qu'il dit, nous l'avons lu, je l'ai relu, je le redis encore une fois. Moi-même, frère, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. C'est précisément ce que lui reprochaient les Grecs, c'est de manquer de prestige dans ses démonstrations oratoires. Il continue, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça, c'est précisément ce que lui reprochaient les Juifs. Ce discours de Paul, annonçant que le Messie avait été crucifié, était inacceptable pour un Juif. Parce qu'ils attendaient un Messie glorieux, un Messie vainqueur, un Messie qui allait établir son règne, pas un misérable crucifié. Alors l'apôtre Paul a tenu bon. Il n'a pas cherché à faire des compromis en disant qu'il faudrait qu'on fasse une synthèse philosophique entre le judaïsme et l'hellénisme, le monde grec, pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Non, il a continué de prêcher autre chose qui ne plaisait ni aux uns ni aux autres. Et il a tenu bon. Il a tenu bon parce que pour lui, il le dit ailleurs, il le dit, mais de toute façon, ce message que les Grecs méprisent ou que qui scandalisent les Juifs, c'est la sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est ainsi que Dieu agit. L'apôtre Paul savait, et nous devons savoir nous aussi, je crois que c'est important de penser cela, que finalement, l'évangile de Jésus-Christ, le Jésus-Christ crucifié, comportera toujours, toujours une dimension humiliante qu'il faut une bonne fois accepter. On se fera toujours moquer. En tout cas, dans un premier temps. Et il faut l'accepter. Il faut faire avec. Et l'apôtre Paul faisait avec. L'épître aux Hébreux donne cette fameuse citation de l'Ancien Testament à propos de Moïse, en l'appliquant aux chrétiens. Et voici ce que dit l'épître aux Hébreux sur Moïse. Il estimait, pardon, donc il avait accepté de quitter les honneurs de l'Égypte pour vivre la vie d'un nomade et d'un berger, ce Moïse. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Donc voilà, je crois qu'il y a une dimension à accepter, une dimension que, effectivement, le message chrétien n'est pas les plus populaires, mais il faut tenir bon. C'est Jésus-Christ à lui-même. On a payé le prix et il ne faut pas nous étonner, nous aussi, d'avoir un prix à payer à cela. Il y a une humiliation à accepter, une humiliation devant les hommes, pas devant le Seigneur. Une autre chose pour laquelle l'apôtre Paul a tenu bon, c'est que vous connaissez peut-être la formule latine, cette sentence qui dit « Magna et veritas et prevalabit ». J'y suis pas arrivé. Je la reprends. « Magna est veritas et prevalabit ». Pas se tromper sur les... Alors je vous la traduis, hein, parce que ça sera plus simple. « La vérité est grande et elle prévaudra ». Vous savez, on peut annoncer l'évangile et se faire moquer de nous. Mais un jour, la vérité apparaîtra. Un jour, la vérité apparaîtra. Il est dit de Jésus-Christ qu'un jour, tout genou fléchira devant lui. Ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui l'ont méprisé, ceux qui l'ont rejeté, reconnaîtra sa supériorité, sa seigneurie. Alors, je crois que ça sera bon d'être du bon côté et dans le bon camp. La vérité est grande et elle prévaudra. Dans ce même passage, l'apôtre Paul cite Ésaïe qui dit ceci, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Il faut le savoir aussi, ça. Il faut le savoir et ne pas trop s'inquiéter. Et puis, enfin, dernière, c'est ma conclusion, c'est que la préoccupation de l'apôtre Paul lorsqu'il prêchait l'Évangile était une préoccupation avant tout pastorale. Je m'explique. Les auditeurs qu'il avait en face de lui, qu'ils soient grecs, qu'ils soient juifs, avaient besoin d'assurance. Ils avaient besoin de quelque chose de solide dans leur vie, d'une assurance sur laquelle ils puissent se fixer pour toujours, qui ne change pas, qui ne varie pas d'un orateur à un autre, d'une mode à une autre. Et il dit, ah oui, ça c'était la vérité pour cette époque, mais maintenant les choses ont changé. Non, il fallait quelque chose de solide. Et c'est pourquoi il leur dit que si Paul agit comme cela, c'est afin, dit-il, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Il y a un passage, je lis et j'apparais là-dessus, hein, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 21, où l'apôtre Paul définit ce qu'il entend par la puissance de l'évangile. Il prie pour les Éphésiens afin qu'ils puissent réaliser quelle est l'immense puissance de Dieu, l'immense puissance que Dieu a déployée en notre faveur, à nous les croyants. Son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Telle est la puissance de l'Évangile. Amen.